Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes, dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Alexandre Hervaux, le cofondateur de Blobber, un outil no-code qui vous aide à créer des produits à partir de vos API. Alors si ça vous paraît un peu obscur et technique, pas de panique, c'est normal, mais on a essayé de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour parler de ce sujet qui me passionne, comme vous l'aurez sûrement déjà remarqué. Allez, bonne écoute, et puis on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Alexandre, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Tu es le cofondateur de Blobber, nouvel acteur de l'écosystème no-code. Vous vous attaquez au sujet des API, un domaine qui me tient à cœur particulièrement, que je considère super important, comme je n'arrête pas de le répéter à longueur de podcast et de vidéo. Alors vous avez un angle très précis que tu vas nous raconter tout à l'heure. Mais voilà, je suis vraiment content qu'on échange aussi parce que ça nous change un petit peu des sujets no-code qui reviennent souvent, de la construction de sites web, d'appli. Là, vous faites quelque chose de nouveau, à mon avis. Enfin, j'ai jamais vu de choses concurrentes. Donc ça va être intéressant de voir vraiment votre parti pris et pourquoi aussi... C'est du no-code, quoi. Mais je pense que la question va être assez évidente quand tu vas nous expliquer ce que c'est. Ça va être peut-être un peu technique, ça va être l'occasion de tester un petit peu tes compétences pédagogiques. Voilà, mais je suis sûr qu'à deux, on va réussir à transmettre plein de choses sur le vaste sujet des API. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Merci Alexis. Moi, je suis Alexandre Hervaux, le cofondateur donc, de Blobber. J'ai une petite expérience plutôt dans la monétisation et plutôt du côté business au départ, donc rien à voir avec le domaine des API. Et au fur et à mesure de ma carrière, je me suis spécialisé du coup sur accompagner des entreprises sur la partie monétisation de leur généralement de leur logiciel. Et du coup, j'ai fait toute ma carrière chez Gemalto, qui a été ensuite racheté par Thales à l'étranger. Et j'ai décidé de cofonder Blobber avec mon associé Alexandre. Donc on est deux Alex, cofondateurs, il y a maintenant un an.
Ok. Avant de que tu nous expliques vraiment plus particulièrement ce que c'est Blobber, toi dans ton parcours, en termes de background technique, j'ai envie de dire, un peu c'est quoi ton... Enfin, est-ce que tu faisais du code, du no-code déjà, avant de vous lancer dans ce sujet ?
Ouais, c'est intéressant. En fait, comme je travaillais dans une grosse boîte, Gemalto, je m'occupais surtout du sujet innovation, donc lancer des nouveaux projets. Et je suis un peu tombé dans le no-code par hasard, par l'angle plus business et par frustration de ne pas pouvoir sortir des projets rapidement. Et j'ai commencé à créer mes premiers sites sur Wix, assez bêtement, des choses très simples. Mais généralement, le flow classique, ça prenait plusieurs mois chez Gemalto. Donc, ça permettait d'avoir des shortcuts pour rapidement montrer une proposition de valeur et l'expliquer à des partenaires externes. Donc, c'est un peu comme ça qu'au départ, je suis rentré dans l'univers du no-code et j'ai tout de suite été fasciné par des outils aussi simples que Wix qui me permettaient de gagner des semaines, voire des mois pour lancer un projet. Et du coup, en fait, ouais, c'est le côté no-code, ça a été plutôt par... j'ai commencé à mettre les mains dedans, effectivement, avec Wix, créer des sites. Et après, le secteur dans lequel j'étais, c'était vraiment essayer de packager du software et de rendre accessible le fait de gérer le software pour des gens du produit. Donc, effectivement, il y avait cette dimension déjà no-code dans le business dans lequel j'étais avant de fonder Blobber. Et donc, c'est un peu la conjonction des deux, créé par soi-même et aussi le domaine dans lequel j'étais qui nous a poussé vers le no-code.
Juste, Gemalto, c'est la boîte qui fait les cartes à puces, hein, c'est ça ? Enfin, ou entre autres. Ouais, ok, c'est juste quand même un gros acteur français, mais qui n'est pas très connu, alors qu'en fait, c'est hyper présent dans notre vie, non ? Enfin, hein.
Effectivement, c'était Gemalto, c'est des milliards de cartes bancaires qui sont faites dans le monde entier, avec plein de solutions après, logiciels, plus sur la sécurité, cybersécurité. Et moi, j'étais dans l'un des six business de Gemalto, sur justement la partie plus monétisation, comment aider des acteurs comme HP, Adobe à monétiser leur offre de logiciels en packageant la bonne offre avec les bonnes features aux bons utilisateurs, en ayant les bons quotas d'utilisation et les bonnes références en termes de monétisation et de business model. Et donc, du coup, c'était une partie conseil et également un software qui permettait justement de packager ces différentes offres pour différents besoins.
Et donc, est-ce que, enfin, peut-être que le plus simple, avant que tu nous dises d'où vient Blobber, c'est peut-être d'expliquer ce que c'est en quelques mots. Est-ce que, si tu peux m'expliquer Blobber, ce que c'est, comme si j'avais 5 ans, quoi.
De manière très simple, Blobber, on permet de créer un portail d'API en quelques clics qui améliore l'expérience des développeurs qui vont intégrer ces API. Si je simplifie, en fait, encore plus, c'est Blobber, c'est une solution qui permet de pouvoir définir quel est le contenu de son API qu'on veut partager de manière très très fine, quelles sont les données qu'on veut rendre disponibles, à quelles conditions et potentiellement même à quel prix, avec quel workflow d'utilisation, pour les mettre à disponibilité des personnes externes. Et on fait ça, tout ça en no-code, où on a uniquement une interface graphique qui permet à n'importe qui de pouvoir définir visuellement comment ils veulent partager, monétiser leurs API.
On va creuser un peu ça parce que je pense que le premier truc qui est important à préciser, c'est que Blobber, c'est pas ça qui va permettre de faire l'API en tant que telle, quoi. C'est-à-dire, vous partez du principe, vous, que tout le monde, et je pense que c'est beaucoup le cas dans l'industrie, mais même pour des makers, en fait, tout le monde a potentiellement une API, peut-être qui est exposée par un outil qu'on utilise, peut-être par exemple, je vais prendre Airtable et on reviendra sur ce cas-là, mais par exemple, moi, ma base Airtable, comme toutes les bases Airtable, peut être accessible via une API. Et donc, vous, ce que vous proposez, c'est quelque chose qui va venir par-dessus ça, tu vas nous détailler un peu, mais justement pour contrôler encore plus les accès, éventuellement les monétiser, éventuellement gérer les quotas, des choses comme ça, quoi. Est-ce que peut-être que, avant qu'on creuse un peu, parce que j'ai forcément plein de sujets là-dessus, je résiste pas à l'envie quand même de te demander si tu veux essayer d'expliquer ce que c'est qu'une API. Parce que, imaginez quand même qu'il y a peut-être certains encore des auditeurs qui ne sont pas assez familiers avec ça. Est-ce que tu veux tenter ta chance? C'est un sujet, je te demande aussi, parce que moi, dans le cadre de nos formations, forcément, on le fait régulièrement et c'est un sacré challenge. Et j'aimerais bien voir comment toi, tu l'expliques.
Ouais, c'est un sacré challenge. Effectivement, il y a un exemple que je trouve super intéressant qui a été fait dans une vidéo par Mulsoft qui explique une API comme étant un serveur dans un restaurant. Donc, si on imagine que dans un restaurant, il y a l'arrière-cuisine où sont réalisés les plats, qui est un peu, si on imagine ça, un peu notre base de données avec le serveur, et dans le restaurant, un menu qui montre quels sont les plats qui sont disponibles. L'API, c'est le serveur du restaurant qui va passer les commandes en cuisine et qui va ramener les plats. Et c'est un peu cette image-là de l'API, c'est... faire le lien entre ce qu'on veut exposer à l'externe et ce qu'on peut faire en interne. Il y a effectivement après plein de technologies qui permettent de faire ça au niveau des API, mais je trouve que c'est souvent une image assez intéressante pour essayer de vulgariser ce qu'est une API.
C'est marrant, il faudrait que tu m'envoies cette vidéo parce que j'utilise la même, et j'avoue, je croyais avoir inventé cette idée, mais j'utilise la même image parce qu'effectivement, je trouve que c'est assez parlant de voir la cuisine comme un service et puis de voir éventuellement le serveur. Parce que moi, je trouve qu'il y a une notion qui est importante avec les API, c'est aussi la notion d'interface, finalement, et cette idée que tu peux avoir un serveur qui va dans la cuisine, effectivement, mais tu peux aussi avoir du click and collect, tu vois, et ne pas passer par le serveur, mais passer par une application mobile. Mais à la fin, c'est toujours la cuisine qui fait le plat et qui rend le service, quoi. Donc, c'est intéressant. Ouais. Bah, écoute, donc, si les gens n'ont pas compris après tout ça. Et alors, du coup, pour en revenir à Blobber, qu'est-ce qui vous a. C'est quoi la problématique finalement que vous essayez de résoudre? Tu nous as dit en quelques mots ce que vous faites. On a compris maintenant un petit peu plus ce que c'est une API, et on va illustrer ça évidemment avec des choses plus concrètes, peut-être avec des outils no-code, je pense que ça parlera aux gens. Mais qu'est-ce qui vous a tout simplement donné l'envie ou enfin vous a dit la nécessité de faire Blobber?
Ben effectivement, au départ, on s'est rendu compte que une API, en fait, un peu, si je reprends cette image de menu, permet de donner par le menu ce qui est disponible en cuisine. Mais souvent, c'est assez complexe pour l'utilisateur de comprendre exactement le menu. Le menu, c'est assez simple. Il faut s'imaginer que souvent, une API, c'est un menu avec plein de pages. Et donc, du coup, l'utilisateur est un peu perdu. Et donc, on s'est rendu compte rapidement que Pour pouvoir faciliter le travail de l'utilisateur, il faut créer plusieurs API en fonction des cas d'usage. Et ça multiplie le travail du côté plutôt back-end, des développeurs qui doivent recréer une API, une nouvelle version, en fonction d'un nouveau besoin. Et on s'est dit qu'en fait, l'opportunité était à partir d'une API existante qui rend possible le partage d'un ensemble de data, de virtualiser ces data qui vont être exposées pour créer des packages de données qui vont être adaptés à chaque besoin et à chaque use case des utilisateurs. Donc la volonté au départ, c'était de faciliter et d'essayer d'un peu de court-circuiter le travail de développeurs pour le rendre plus accessible à un grand nombre en créant des différentes petites packages d'API qui seront facilement plus accessibles pour des parties tierces, que ce soit des développeurs ou même des no-codeurs.
Si on continue un peu dans l'exemple de la cuisine, par exemple, on imagine qu'une cuisine qui a qui peut faire plein de choses différentes, plein de types de nourriture, de choses comme ça, et vous allez proposer de faire des sous-ensembles qui vont potentiellement se présenter différemment. Dire par exemple que la partie je sais pas, restaurant chinois, ça va être que certains plats, et ça va être accessible gratuitement, et par contre d'autres seront payants ou seront accessibles suivant certaines contraintes d'authentification, de choses comme ça, quoi. Créer des espèces de sous-menus, mais dont non seulement les données seront différentes, mais aussi les conditions d'accès, quoi.
Complètement. En fait, nous, aujourd'hui, on adresse uniquement les API REST, qui est un certain type d'API, mais qui représente une grosse partie des API qui sont aujourd'hui exposées. Et effectivement, les conditions qu'on permet de mettre sur ces API, c'est un système de quotas. Donc dire, par exemple, on peut faire 1000 appels par mois pour une API spécifique. Et dans une API, on peut avoir un ensemble de endpoints qui sont de différentes routes pour appeler de différentes sources de données. Et avec, on peut mettre des conditions particulières en rajoutant des paramètres. Et nous, en fait, notre travail, c'est de mettre des conditions assez strictes ou non sur ces endpoints en combinaison avec des quotas, des limites, ce qu'on appelle les throttling limits, c'est un nombre d'appels maximal, par exemple.
Par seconde, par minute, ouais.
Par minute, voilà. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un packaging de comment on expose son API en essayant d'avoir une approche vraiment produit de son API et pas uniquement j'ouvre toutes les données qui sont accessibles dans mon API. On a une autre image qu'on essaye de mettre... De pousser aussi, c'est qu'aujourd'hui, les API sont un peu partagées comme des dictionnaires. On donne accès à un ensemble d'informations. On essaye d'optimiser ce dictionnaire en disant ça va être facile de trouver l'information en rendant le dictionnaire de plus en plus beau. Et notre approche, c'est plutôt de dire, en fait, on devrait avoir une approche sur les cas d'usage et donner des mémos qui permettent de dire, dans ce cas concret, voici comment on peut utiliser la donnée. Et comment on peut utiliser l'API pour arriver en minimum de temps à réaliser l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est vraiment une approche assez différente par rapport à ça, et sur comment on package l'API, et comment on veut la documenter pour faciliter le travail des développeurs.
C'est intéressant parce que, enfin, et corrige-moi si je me trompe, hein, mais moi j'ai l'impression que quand des développeurs sont amenés à faire une API, enfin, j'imagine, par exemple, je reprends le cas de Airtable, quand l'équipe de développeurs d'Airtable dit « Ok, bon, maintenant, on va donner accès aux données via une API », il y a vraiment une notion d'exhaustivité, d'essayer de fournir le plus de moyens possible, ces fameux endpoints, donc ces routes, qui en aient le plus possible. On ne peut pas rentrer, il faudrait faire toute une formation sur les API, mais sur les opérations qui sont possibles, sur les routes qui sont possibles, sur toutes ces choses-là, il y a vraiment cette notion d'exhaustivité qui est importante parce que pour les développeurs qui ensuite vont s'emparer de l'API, plus ils ont de choses, plus ça va être intéressant. Et néanmoins, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, c'est que vous allez un peu pas à l'inverse finalement, parce que vous, il faut qu'il y ait ça en dessous, et vous, ce que vous proposez, c'est ensuite de raffiner ces choses-là, simplifier potentiellement, et aussi, tu le disais bien, productiviser aussi ces choses-là. Et est-ce que moi j'ai des idées comme ça de choses pour illustrer, mais peut-être avant que je dise ça, enfin, est-ce que toi tu pourrais nous donner peut-être quelques exemples aujourd'hui que tu vois de cas d'usage plus concrets, tu vois, là on est encore été assez général, mais si tu as peut-être des exemples même de clients déjà que vous avez.
Par exemple, on a un exemple de client qui est une fintech et qui partage son API interne à l'externe. mais une API de fintech, de banque, il y a plein de endpoints, évidemment. Mais pour accéder à une banque, on a toujours un use case en tête. On veut soit faire un transfert, soit se créer une carte bancaire, etc., etc. Il y a à chaque fois des use cases. Et en fait, ce qu'on permet de faire, c'est à partir d'une API qui permet de faire plein de choses, on permet au fournisseur de l'API de partager son API avec des partenaires sélectionnés en disant on va créer des use cases en fonction de vos besoins. Et ces use cases sont des conditions spécifiques sur notre API qu'on a créée en interne et qui nous permettent d'exposer que certaines routes à certaines conditions parce que vous êtes un partenaire privilégié. Mais tout en gardant le contrôle sur les autres data qui sont disponibles dans l'API, qu'on veut soit pas partager aux partenaires, soit parce que c'est des informations effectivement business sensitive ou dans le domaine de RGPD. Donc il y a cette problématique avec l'exemple du banking, à partir d'une API bancaire, comment je crée mes différents cas d'usage pour répondre à différentes demandes de partenaires.
Pour bien comprendre l'intérêt entre guillemets de Blober là-dedans, est-ce que les gens là qui conçoivent cette API, puisque c'est eux vos clients, hein, c'est eux qui sont aussi les maîtres, pourquoi eux-mêmes ne mettent pas en place justement ces différentes règles, etc., ne les implémentent pas eux-mêmes?
Alors c'est souvent parce que c'est les entreprises avec lesquelles on travaille sont des startups ou scale-up en forte croissance. Souvent l'expertise de l'API est un peu dans le giron des développeurs et c'est une ressource qui est demandée par plein d'équipes dans la boîte et donc du coup c'est souvent l'API la dernière chose qui est implémentée et on
C'est vrai.
voit souvent deux choses, soit on n'ouvre pas son API à cause de ça.
Absolument.
On l'ouvre, mais on ne veut pas itérer sur son API et la qualité n'est pas forcément optimale. Et donc, notre croyance forte, c'est vraiment de dire l'API doit être gérée par les personnes du produit et pas uniquement par les personnes qui sont des développeurs. Cette approche produit et business, on essaie de la remettre dans les mains des personnes qui, à notre sens, devraient le gérer.
Hein, c'est hyper intéressant parce que c'est là où on commence petit à petit, tu vois, à toucher vraiment ce sujet des API. Comme tu dis, il y a plein de sociétés où c'est souvent un peu le dernier truc à faire parce que finalement, l'intérêt pour les sociétés, il va être très direct. Enfin, je vais prendre un exemple, je sais pas très concret que les gens connaissent, je sais pas, de Spotify par exemple. Spotify, je pense que pendant longtemps, on pouvait écouter de la musique en utilisant le client de Spotify. Puis un jour ou l'autre, ils ont quand même fait une API. Mais finalement, ça, c'est quelque chose qui s'adresse à un sous-ensemble de leurs clients, ou peut-être même pas de leurs clients, qui sont les gens développeurs. En fait, ça t'ouvre énormément de portes, mais c'est que adressé à des gens très techniques. Donc c'est vrai que c'est que des fois, pour ça peut être moins priorisé. Mais après, j'ai envie de dire, à partir de là, à partir du moment où les gens font une API, ce que tu dis intéressant, c'est soit ça va peut-être être fait un peu vite fait, et puis pas forcément bien documenté, et puis auquel cas c'est pas utilisable, et alors du coup ça sert à rien. Soit un peu le meilleur cas, j'ai envie de dire, et qui, je pense, va dans votre sens, c'est que ça soit très exhaustif, très bien fait. Sauf que du coup, les développeurs, quand ils arrivent, enfin, franchement, c'est juste trop, quoi. Enfin, tu vois, c'est OK, c'est super, tu vois, mais il faut se plonger dans l'API. Et tu vas peut-être pas comprendre ce que tu peux en faire, tellement il y a de choses, tellement tu as accès à de choses. Et c'est là où cette notion de produit, je trouve, apparaît. Et je pense que les gens sont peut-être pas encore familiers avec vraiment ce côté, enfin, utile, voir l'API, les accès à API comme un produit, mais je trouve ça vraiment très intéressant ce que vous faites par rapport à ça. Est-ce que tu as d'autres exemples peut-être un petit peu pour illustrer.
J'ai peut-être un exemple aussi, ouais, plus du côté no code, Airtable, où on a eu quelques utilisateurs récemment, qu'on vient juste d'ouvrir un peu plus publiquement Blober en self-service, où on a des premiers utilisateurs qui utilisent Blober pour gérer l'API d'Airtable. Ou à partir de l'API d'Airtable, qui est rendue disponible, on peut prendre son API key dans Airtable. On peut customiser quelles sont les informations qu'on veut rendre disponibles à un partenaire ou un client potentiellement, ou les données dans une table. On veut définir à quelles conditions on veut les partager à une partie tierce, sans avoir à recréer des tables plus fines qui permettront de partager son API. Et donc du coup, c'est un cas d'usage aujourd'hui qu'on voit qui est vraiment très lié du coup au no-code. Qui est en train d'être implémenté.
Finalement, c'est souvent le cas un peu avec des produits comme le vôtre, c'est que vous venez compléter des fonctionnalités qui ne sont pas existantes Et là, c'est un truc très transverse parce que c'est le cas de toutes les API, quoi. Enfin, je pense que très sincèrement, on se retrouve souvent dans ce cas de choses très exhaustives parce que la gestion fine, ça serait un coût important pour le développement d'Airtable, à mon avis, d'offrir ces choses de gestion très fines que vous pouvez faire. Et enfin, si on prend cet exemple d'Airtable, je pense que si je dis pas de bêtises, déjà on a une seule compte, on a une seule clé d'API Airtable pour tout son compte. Donc la clé donne accès à toutes les bases. Donc ça c'est quand même déjà. Et après au sein d'une base, parce qu'il faut quand même avoir bon l'identifiant de la base, donc ça fait à la limite un deuxième. Mais si on a l'identifiant d'une base, après on a accès à toutes les tables. Et donc c'est vrai que si on veut imaginer qu'on veut donner accès, par exemple, je sais pas, je peux donner un exemple bête, moi ça servirait pas à grand monde, mais si on voulait donner accès à la liste de toutes nos formations sous la forme d'une API, si des gens, je sais pas, veulent construire des comparateurs de formations no code ou un truc comme ça, qui nous demandent ça. Bah nous, on ne peut certainement pas leur donner notre clé d'API Airtable. On ne peut même pas leur donner accès à toute la base. Et donc, on va vouloir, et là, la seule option qu'on a, j'ai envie de dire, c'est Blobber, à moins que c'est dans Blobber, je vais aller, sans coder, définir, donner accès. En fait, Blobber va avoir accès à ma table Airtable, enfin à ma base. Et puis moi, je vais dire, j'expose une seule route qui donne accès précisément à certaines données, quoi. C'est ça, en gros, si je résume à peu près.
Super bien résumé. Effectivement, tu exposes uniquement une seule route, par exemple, pour Airtable, et Blobber va gérer les accès API des utilisateurs avec qui tu veux partager cet accès. Donc, ils auront chaque utilisateur aura sa propre clé API, où toi, tu pourras ensuite suivre la consommation de chaque utilisateur par rapport à cette API. Donc, ça te permet de traquer aussi exactement qui a utilisé quoi dans tes données, pour quel cas d'usage. Et ça a aussi un intérêt, au lieu d'avoir l'information sur la consommation globale de l'API, tu peux avoir de manière très fine comment un cas d'usage a été utilisé par exemple un partenaire. Et c'est valide sur plein d'outils. Airtable, c'est un exemple, mais à partir du moment où un outil a une API, potentiellement, en utilisant Blobber, on peut gérer les accès de son API de ce site tiers pour repartager à d'autres partenaires sans avoir à passer par un Zapier, par exemple, où il faut avoir certaines connexions qui sont déjà existantes, mais sans avoir de connexion existante qu'un Zapier généralement demande, on peut directement partager son API avec d'autres outils.
Ouais, non, c'est intéressant. Je pense qu'un autre cas d'usage, moi, que je verrais bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà un peu exploré, c'est avec Bubble. Parce que dans Airtable, on va dire, on a cette notion d'accéder à des données. Mais pour moi, les API, ça permet pas que accéder à des données, même si c'est peut-être un des cas d'usage les plus fréquents, mais on peut aussi donner accès à des services où il va y avoir des traitements qui vont se passer et pas juste renvoyer une donnée. Et donc typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Bubble, quoi, côté back-end, comme on dit. Et donc, dans Bubble, tu as des API pour accéder aux données, mais tu peux faire tes propres back-end workflows, et donc déclencher des actions quand on t'envoie des requêtes. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi vouloir pouvoir gérer plus finement. Et juste, après, je te laisserai un peu continuer là-dessus, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette notion de tracking que tu dis. Il y a aussi une notion de sécurité, pouvoir contrôler les accès, définir des accès différents, ce que tu ne peux pas faire en général facilement avec des outils dont on parle. Et il y a une autre notion de sécurité qui est celle aussi de ne pas se faire bombarder de requêtes, quoi. Enfin, ça, je suppose que du coup aussi, vous. Enfin, c'est ce truc de. Je sais même pas si de limitateur de. Un peu limitateur de vitesse, quoi. Éviter que les gens fassent 2000 requêtes par seconde et un peu contrôler ça, quoi.
Complètement. Effectivement, avec Blobber, nous, on agit comme un reverse proxy. Donc, on est une surcouche qui agit on top, au-dessus de l'API. Donc, on contrôle les entrées et les sorties. Et donc, ça permet de limiter, effectivement, le nombre de requêtes, où c'est nous qui prenons la charge, et c'est pas le service directement de l'API qui va se prendre des milliers d'appels s'il y a des appels plus frauduleux. Donc ça, c'est une partie plus, effectivement, sécurité. Sur la partie plus service, effectivement, on n'a pas encore de cas d'usage avec Bubble directement. Mais c'est complètement quelque chose, par rapport à ce que tu m'expliquais, complètement qu'on pourrait imaginer utiliser dans Blobber pour facilement customiser les accès à ces services ou gérer justement comment ces services peuvent être accédés.
D'ailleurs, juste pour rebondir sur là-dessus, il y a quand même un truc, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je suis autant, on va dire, fasciné que juste que c'est important ce sujet d'API, c'est que c'est quelque chose qui est complètement standardisé. Alors, parce que là, on parle d'API, mais en fait, on parle d'API REST. Voilà, et puis je mettrai des liens pour que les gens puissent creuser ce sujet, parce que c'est, on va pas faire vraiment une formation dans cet épisode, mais le fait que ça soit standardisé, finalement, j'ai envie de dire, vous en foutez, quoi, de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tant que on travaille avec une API REST standard, ce qui va être le cas de l'API de Bubble, de Airtable, ou si elle a été développée par des développeurs en suivant les bonnes manières de faire, pour vous, c'est complètement abstrait, finalement.
Effectivement, en fait, généralement, quand on construit une API REST, on va faire un fichier, un schéma qui représente cette API. Et c'est généralement ce schéma qu'on va intégrer dans Blobber et qui permet de comprendre l'architecture, pour nous, de l'API. Mmh. Donc ça, c'est une des solutions. Et souvent, ces outils, ce n'est pas forcément disponible. Ils le gardent pour eux. Ils ne le partagent pas souvent. Mais ce qu'on permet de faire aussi avec Blobber, c'est à partir des exemples, on arrive à déduire l'architecture qui a été créée pour ces API. Et donc, on permet de les reconstruire automatiquement pour ensuite pouvoir les contrôler. Donc, on fait, y a une première phase quand on met son API chez Blobber, c'est qu'on est, on peut mettre des exemples de données, d'appels, et ça nous permet de comprendre l'architecture de l'API pour ensuite pouvoir contrôler les accès de manière justement très fine pour différents utilisateurs. Et donc, c'est là où on peut vraiment aider, et effectivement, c'est quelque chose qui est utilisable pour n'importe quelle API REST, parce qu'en fait, il y a des choses qui reviennent tout le temps et qui nous permettent d'avoir vraiment une façon qui est vraiment assez transversale de comment on comprend l'API et comment ensuite on va pouvoir la gérer. Et tous les outils utilisent généralement REST. Il y a de plus en plus d'outils maintenant qui utilisent GraphQL, qu'on ne gère pas encore, mais aujourd'hui, c'est un peu la loi de Pareto, 80-20 sont sur du REST et 20% sur les autres technos.
Ouais, sachant qu'il y a dans l'industrie des standards un peu historiques de web service, SOAP, etc., bon, qui je pense existent toujours un peu, dans des contextes très différents de ce que nous on va connaître plus dans le monde des startups, etc., où effectivement là ça s'est standardisé. Et c'est vrai que GraphQL, j'avoue que j'ai pas beaucoup suivi tout ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même très réservé aux développeurs, mais en termes de manière d'accéder aux données, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu la nouvelle manière de faire. Et est-ce que vous, alors, bon, là, c'est vraiment une question très technique, mais est-ce que vous comptez aussi offrir à peu près le service que vous offrez aussi sur du GraphQL?
C'est exactement ce qu'on veut faire, ouais, dans les prochains mois, c'est effectivement s'ouvrir à d'autres API. Et GraphQL, c'est effectivement on top of the list. Mais okay. Avant, on a d'autres choses qu'on va améliorer sur le produit, comme améliorer les workflows, sur comment on gère différents endpoints et expliquer dans la documentation pour que ce soit le plus simple possible, comment rendre facilement accessible l'API. Et ça, c'est notre première grande étape avant de partir sur le GraphQL.
Ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est un gros challenge déjà qu'il faut arriver à faire. Et donc, c'est intéressant parce que tu as expliqué un petit peu comment ça se passait. C'était un peu une des questions que je voulais que tu expliques un petit peu aux gens comment on ajoute sa base de données, son API. Et effectivement, j'ai l'impression quand même que la manière la plus facile vraiment de faire, c'est d'avoir le fichier de définition. Ça, c'est le cas idéal. Malheureusement, effectivement, moi, j'ai fait un peu des recherches et pour l'instant, dans les outils no-code, j'ai jamais vu ça. Et donc là, on a cette manière plus manuelle que tu décrivais. Qui, honnêtement, j'ai testé hein, forcément avant de... Et je pense que ça peut prendre un petit peu de temps, même si vous avez fait des choses assez intelligentes où on copie juste les exemples de réponses. En gros, si je schématise un peu, hein, il faut un petit peu copier-coller la documentation, par exemple, d'Airtable dans Blobber. Mais comme on n'est pas là pour tout reproduire, c'est bien l'idée de Blobber, normalement, ça ne doit pas prendre trop de temps, quoi.
Complètement. On a essayé de faire en sorte que, en moyenne, ça prenne moins de 2 à 3 minutes pour uploader une nouvelle API dans Blobber. Okay. À partir du moment où on a les informations, le mieux, c'est généralement d'avoir un postman qui permet d'appeler l'API, de voir les réponses. Ouais. C'est un outil vraiment super pratique pour faire ça. Et on peut directement copier-coller les informations dans Blobber Et du coup, ça devient très, très rapide pour pouvoir uploader une nouvelle API. Effectivement, comme tu le disais, quand tu veux uploader une API, tu ne veux pas forcément, surtout si tu utilises cette technique, avoir tout le schéma de définition dans Blobber. Mais il y a uniquement certaines routes, par exemple, qui t'intéressent. Mmh. Et à partir desquelles tu veux itérer sur comment tu vas les partager, à quelles conditions, avec tes partenaires ou clients.
Ouais. Et alors, c'est quoi un petit peu les gens que vous ciblez? Du coup, tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de use case fintech. Mais vous, dans l'idéal, enfin un peu les clients que vous espérez avoir.
Alors, en fait, on s'est rendu compte au départ, on a adressé beaucoup les gens du produit pour pouvoir mieux partager leurs API. Et on s'est rendu compte ces derniers mois qu'en fait, il y a beaucoup de développeurs qui veulent utiliser Blobber pour faciliter le travail. Donc, c'est assez intéressant. On a deux types de personas, des gens du produit qui sont assez tech, qui comprennent les API, qui sont très impliqués dans cette démarche-là et qui veulent mieux partager leurs API. Et donc, du coup, la valeur est évidente pour eux d'utiliser Blobber. Et après, on a plus des développeurs qui en ont un peu marre de recréer à chaque fois une nouvelle version d'API, à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, à chaque fois qu'il y a un nouveau space. Ou alors, ils ont plein de endpoints et ça devient incompréhensible pour les utilisateurs. Et eux se redirigent vers nous en disant on veut utiliser Blobber pour simplifier l'accessibilité de l'API et la compréhension de notre API. Et tout ça, sans coder, c'est moins la chose qui fait rêver les développeurs, le no-code. C'est généralement plus le fait de passer moins de temps. C'est effectivement l'approche qui est plus intéressante pour eux.
Ouais, mais finalement, c'est le moyen de faire, tu vois. Mais c'est vrai que moi, pour avoir déjà écrit, tu vois, développé des API, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux. Alors maintenant, il y a pas mal de choses qui permettent d'aller plus vite, mais qui te permettent d'aller plus vite pour faire justement des choses un peu exhaustives. Si tu as ton schéma de base de données, bah après, tu auras toutes les routes qui vont te permettre de faire toutes les éditions. Mais par exemple, la sécurisation, la limitation de toutes ces choses-là, par contre, ça, c'est hyper... ça peut être déjà compliqué, ça peut être fastidieux, tu vois, et tu peux vouloir t'en décharger, quoi. Et donc, moi, je peux imaginer comment, en tant que développeur, bah, ok, bon, j'ai mes techniques pour faire un peu le truc un peu générique, toutes les routes, tous les machins, par contre, ça, je peux pas donner accès à tout le monde, donc ensuite, en mode no-code, et c'est là où vraiment, moi, je trouve que Blobber est complètement un outil no-code, c'est qu'avant ça, t'étais obligé de faire du code, bah là, maintenant, en quelques clics, tu mets ta grosse API, entre guillemets, et puis après, tu fais tes sous-produits, tu gères tes comptes utilisateurs, et puis surtout, tu l'as mentionné, on l'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais aussi, on peut faire payer tout ça, quoi. Tu peux mettre ton compte Stripe, etc., parce que suivant les données auxquelles tu donnes accès, il y a des gens qui sont prêts à payer pour certains jeux de données ou certains services, on en revient encore un petit peu à cette dichotomie, mais qui est pas... Mais je veux dire, enfin, est-ce que j'ai un exemple d'ailleurs d'API payante que je pourrais utiliser? Non, j'en ai pas forcément. Est-ce que tu as un exemple de...
Il y a beaucoup en fait, en termes d'API payante, on parle souvent de monétisation directe ou indirecte. Donc, soit son API, quand on la partage à des partenaires, la monétisation n'est pas forcément directe avec un prix par appel, par exemple, de l'API. Mais ça apporte plus de stickiness de sa solution. Ça veut dire que la solution est plus utilisée par la partie tierce parce qu'on rend accessible une API. Donc, ça a un impact forcément sur la monétisation de manière indirecte. Mais quand on parle de monétisation effectivement directe, il y a trois business models qui reviennent souvent. Soit c'est du prix par appel. Donc, je monétise en fonction du nombre d'appels. Et ça, typiquement, c'est des API de météo qui sont vendus potentiellement au nombre d'appels.
C'est le premier exemple qui m'est venu en tête parce que j'ai utilisé ça dans une formation Zapier sur les API récemment. Et effectivement, tu avais un droit à quelques trucs gratuits, mais plus il fallait payer, quoi, par exemple.
Exactement. Après, il y a une API super connue, c'est Twilio, pour envoyer des SMS. Et donc, du coup, c'est en fonction du nombre des SMS. Ça peut être même en fonction du nombre de caractères que tu as dans un SMS. Donc, il peut y avoir on peut imaginer plein de modèles après de la monétisation. Mais c'est vrai que nous, dans Blobber, on s'est focus sur trois monétisations possibles, soit un prix par appel, soit une monétisation en fonction plus d'une souscription, donc un prix mensuel, et après, dedans, on a un système de quotas, par exemple, d'appel API, et après, plus un business model qui est lié à vraiment à l'utilisation de l'API en mode freemium avec une partie free et après une partie payante. Et donc du coup, ces trois modèles permettent d'adresser tous les business models qui existent aujourd'hui en monétisation directe dans les API, soit en type monétisation basée sur le nombre d'appels, type d'informations météo, ou alors des business models qui sont plus évolutifs pour permettre aux gens de commencer à utiliser l'API avant de faire payer.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y en a plein en réfléchissant là, tu vois, mais on est plus dans des API de type qui te rendent un service, tu vois. Par exemple, Google a plein d'API. Ils ont une API, par exemple, Cloud Vision, qui est assez ouf, je trouve. Tu sais, t'envoies une image et puis ça te dit ce qu'il y a sur l'image, les couleurs, les machins. Et ça, évidemment, c'est des choses qui sont très intenses en ressources de leur côté. Donc, ils t'en donnent, je sais pas, peut-être 100 par mois gratuits. Et puis, si tu veux plus, il y en a plein. Mais j'essaie de trouver des jeux de données. Parce qu'il y a plein de jeux de données qui sont accessibles gratuitement. Il y a le site de l'État maintenant qui donne accès à des choses. Mais je suis sûr que même sur les jeux de données, il y a des jeux de données qui peuvent être intéressants. Ou des services de conversion, des choses comme ça. Enfin, après, la météo, c'est un bon exemple. Ça, c'est vraiment littéralement de la donnée, quoi. Tu dis quelque part et lui, il te donne, il te renvoie le temps, quoi.
Exactement. Et il y a effectivement plein d'API où on peut monétiser le service. Et donc, effectivement, il y a plein de services qui ont été monétisés, que ce soit le SMS, les appels, tout ce qu'on peut faire via une API est potentiellement ensuite monétisable si effectivement ça rend service. Et en fait, la distinction entre service et data, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que souvent, elle est assez ténue au final, parce que même si on offre un service, in fine, ce qu'on offre, c'est de la data.
Ouais, ce qui en sort, c'est de la donnée, quoi, toujours.
C'est toujours de la donnée. Mais c'est vrai que nous, on essaye de faire cette distinction en interne, qui était assez claire. Et aujourd'hui, on voit que les modèles de service et les modèles de data sont de plus en plus liés. Et c'est de plus en plus difficile de définir est-ce que c'est vraiment du service ou c'est vraiment de la data. Est-ce que ça rend un service qui a une valeur en soi, ou alors c'est la data et comment on va être utilisé qui a de la valeur. Et ça, c'est des choses qu'on essaye effectivement de mettre en place et de regarder dans notre approche plus produit des API.
Ouais, non, je pense que moi j'ai un biais un peu technique, tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai dans la tête, c'est soit l'API, bah, elle va juste accéder à la base de données et renvoyer tout de suite le résultat de la requête, ou soit il va se passer quelque chose côté serveur, un peu d'intelligent, et puis c'est le résultat de cette exécution qui va être renvoyé. Mais bon, c'est un peu aussi, on est d'accord. Après, la différence qu'il peut y avoir aussi, c'est que par exemple, quand on voit un SMS, le retour de l'API, juste ça te dit, bah ok, le SMS a bien été envoyé, quoi. En fait, t'as quelque chose qui s'est passé, quoi, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, qui s'est déclenché, qui sort du truc, et là, c'est pour ça vraiment que t'as payé, quoi. Pour le truc qu'on t'a rendu, mais il y a plein de choses. Enfin, il y a une API aussi que tout le monde, je sais pas si tout le monde la connaît d'ailleurs, mais c'est enfin les Mechanical Turk de Amazon. Tu sais, tu vois où t'as des gens en fait qui font des micro tâches à la seconde, et tout ça évidemment passe par des API. Donc en fait là, c'est littéralement quelqu'un quoi qui répond. T'envoies par exemple, je sais pas, un ticket de caisse, tu veux savoir la TVA, puis t'as quelqu'un qui regarde en un dixième de seconde, il dit la TVA, enfin un dixième ou une seconde plutôt, quand même les gens sont humains, et ça te renvoie ça. Mais le moyen d'accès, c'est ce standard d'API REST, quoi.
De toute façon, je savais pas que ça passait par une API, c'est Mechanical.
Ouais, c'est impressionnant, hein. Tu peux appeler. Par contre, le retour est pas instantané, tu vois, c'est des trucs. Enfin, c'est un système de fil, bon, bref. Mais la communication passe à travers ces choses-là, quoi. Bah écoute, franchement, c'est hyper. Tout ça est très intéressant. Je suis curieux un petit peu de savoir un peu plus votre roadmap. Un petit peu ce qui a à venir. Tu nous parlais tout à l'heure de GraphQL. Et j'ai envie de poser en même temps la question de comment vous décidez des fonctionnalités à implémenter. Est-ce que vous interrogez vos utilisateurs? Est-ce que vous avez même peut-être une roadmap publique? Il y a pas mal de startups, hein, qui font ça. Ou un peu le côté PM, un peu, j'ai envie de dire, de votre propre produit.
Ouais, c'est une bonne question. Alors, on n'a pas une roadmap publique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on fonctionne sur les retours utilisateurs. On appelle tous les utilisateurs pour savoir comment ils utilisaient Blubber, pour comprendre quelle était leur intention de départ, pourquoi ils utilisent Blubber, et essayer de voir quels sont les gaps justement qu'on doit filer avec notre produit. Et on itère vraiment sur des... on a des runs de 2 semaines, donc assez rapides. Et en fait, du coup, ça nous permet d'être super agile sur les nouvelles demandes à mettre en place. Et donc, en run de 2 semaines, ça nous permet d'être super agile. Nous, on fonctionne vraiment sur une roadmap, effectivement, à 2 ou 3 mois. C'est le maximum de notre horizon. Vision à plus long terme de ce qu'on voudrait faire, évidemment. Mais on essaye de ne pas trop surcharger.
Pas figé.
Pour justement itérer le plus rapidement possible sur les demandes qui nous viennent. Donc, c'est vraiment un travail de toute l'équipe. On est tous alignés. Et tout ce qu'on fait, que ce soit de la partie produit, business, toutes les parties de Blubber, on est tous alignés sur des runs de 2 semaines. Donc, ça permet d'avoir toute la boîte dans la même direction. Et toutes les expérimentations qu'on fait sont toutes calibrées sur 2 semaines.
Donc,
toutes les 2 semaines, c'est très intense pour relancer toutes les expérimentations. Mais on essaie de garder cette marge de 2 semaines.
Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a sur votre roadmap là, pour les 2 prochaines semaines, par exemple? Enfin, si vous voulez dire quelques petites choses, pas forcément vos secrets, mais non, peut-être pas à 2 semaines, mais tu vois, un petit peu les choses un peu principales. C'est aussi pour voir un petit peu ce qui vous manque, tu vois, aujourd'hui. Parce que moi, j'ai l'impression que déjà, le produit en soi est assez complet. Mais je suis sûr, il y a évidemment plein d'autres choses que vous pouvez ajouter. Mais quelles sont vos idées, quoi?
Alors là, ce qu'on est en train d'implémenter, ce qu'on va bientôt sortir, c'est la partie workflow.
D'accord.
En fait, aujourd'hui, avec Blubber, on peut définir certains endpoints qu'on veut rendre disponibles, certaines datas qu'on veut rendre disponibles. Mais on veut créer la possibilité aux personnes du produit de créer un workflow d'utilisation de l'API. Ça va vraiment dans la démarche plus service dont tu parlais, c'est dire qu'il faut d'abord utiliser ce endpoint, ensuite ce deuxième endpoint et ce troisième endpoint pour réaliser le use case.
OK.
Avec des exemples de données, des exemples de code, en mettant les bons paramètres, etc., pour que le développeur, une fois qu'il accède à ce produit, puisse facilement comprendre dans quel sens il doit utiliser l'API pour l'implémenter dans sa propre application.
Ok, donc c'est avant de, si je comprends bien, hein, juste pour, parce que ça a l'air très intéressant, avant de répondre, donc le développeur fait une requête à l'API, ça passe par Blubber, et là, en fait, il va y avoir plusieurs actions qui vont être effectuées par Blubber avant de répondre au développeur, non? Et c'est...
En fait, c'est plus au moment de la compréhension de l'API, où on va améliorer la documentation. C'est au moment de la documentation où le développeur va pouvoir voir les workflows existants pour intégrer les différents endpoints. Et au lieu d'avoir, ce que je partage avec toi, le fait d'avoir un dictionnaire où on a tous les endpoints, dans son use case, il va avoir les 3 endpoints ou les 4 endpoints qui vont être rendus disponibles à utiliser dans un certain ordre, en ayant des exemples de données existantes, en pouvant copier-coller le code directement, ce qui lui permet d'intégrer encore plus facilement son API, plutôt que d'avoir une liste d'endpoints et d'essayer de comprendre mentalement comment il doit utiliser ses endpoints pour réaliser son use case.
Mais alors là, quand tu parles du développeur, parce que juste pour qu'on s'entende bien sur les mots, c'est le développeur utilisateur de Blubber ou le développeur utilisateur de l'API qui a été mis à disposition
Le développeur utilisateur de l'API.
D'accord, ok.
Et ça lui facilite le travail au lieu de, par exemple... je te donne un exemple sur obtenir une carte bancaire. Pour obtenir une carte bancaire, il faut d'abord envoyer sa carte d'identité. Ensuite, faire la requête pour la carte bancaire. On ne peut pas faire la requête de la carte bancaire avant d'avoir envoyé sa carte d'identité. Et ensuite, on la reçoit. C'est une chose très simple, mais...
Mais c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs étapes.
Voilà, exactement. C'est un étapier qui permet de mieux comprendre comment utiliser les API. Et on veut le généraliser avec des exemples de code qui permet de facilement intégrer l'API. Pour nous, la North Star, ça va être vraiment le temps d'intégration d'une API qu'on veut résoudre, qu'on veut diminuer vraiment au minimum.
Ok, d'accord. Non, c'est très intéressant. Ouais. Et ça va se présenter du coup sous la forme de la documentation qui va aller avec...
C'est la documentation qui va être sur le portail d'API. Et cette documentation, en fait, on s'est rendu compte que la documentation, c'est quelque chose qui est horrible à créer pour celui qui l'a fait.
Clairement.
Elle est
Hein.
horrible à comprendre pour le développeur qui doit regarder comprendre l'API, comment il doit l'utiliser. Et en fait, notre but avec cette approche workflow, c'est de limiter la documentation au minimum, avoir un minimum de texte et que simplement par le workflow, on puisse comprendre comment utiliser l'API sans
D'accord.
avoir des explications qui sont extrêmement longues. Et du coup, ça a plusieurs avantages sur le long terme parce que si on veut changer son API, on n'a pas besoin de changer la documentation, les workflows vont pouvoir se mettre à jour de manière semi-automatique. Et du coup, ça va faciliter le travail du développeur et surtout quand on a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais le versionning de l'API qui peut rapidement être un cauchemar si on a plein de use case et plein de clients.
Ouais, d'ailleurs, on peut revenir sur ce point et demi, mais oui, ok, donc je comprends mieux l'idée, en fait, parce que c'est vrai que ce côté dictionnaire, exhaustif, c'est vrai que c'est littéralement comme ça. Enfin, l'API, par exemple, de Airtable, je trouve qu'elle est bien documentée, mais enfin, c'est un peu illisible. C'est juste que quand tu es développeur, tu as l'habitude, puisque les documentations se présentent toujours de la même manière, et c'est toujours ce truc très exhaustif d'avoir la liste de toutes les routes, les méthodes qui sont acceptées, ce que ça va te renvoyer. Et c'est très très systématique en fait. Et alors que là, et ça, par rapport à votre vision, vu que vous c'est plutôt produit, on te montre comment l'utiliser, quoi. Et plus ce côté exhaustif, mais quoi utiliser dans l'API et dans quel ordre.
Exactement. Et on essaye de on reverse engineer le truc où en fait c'est plus le on va chercher par les cas d'usage. Chercher ton cas d'usage et en fonction de ton cas d'usage, tu vas trouver comment utiliser l'API pour ton propre cas d'usage au lieu de t'exposer toute la complexité et débrouille-toi avec cette complexité comme c'est le cas aujourd'hui.
Ok, très intéressant. Oui, je voulais juste revenir sur un point. Tu parlais du versionning pour que les gens comprennent. Quand on fait une API, donc on donne accès à des gens ensuite à cette API, ces gens, ces développeurs, ces entreprises, etc., peuvent devenir dépendantes. Elles peuvent avoir construit un service eux-mêmes qui repose sur cette API. Donc ça, si tu veux proposer une nouvelle version, eh ben, tu es obligé de laisser l'ancienne toujours en ligne pour pas casser ce que tous les gens. Alors tout le monde ne fait pas ça, mais ça, on va dire, c'est la bonne pratique générale. Et donc toi, tu vas faire une nouvelle version de ton API. Et puis les nouvelles personnes, tu vas leur dire, bah, utilisez plutôt la nouvelle version, et t'espères qu'ils vont le faire. Et puis comme ça, après, tu progresses, mais tu peux avoir des utilisateurs qui sont bloqués sur l'ancienne. Alors après, tu peux dire les prévenir, machin. Bon, c'est tout un truc, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez important. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, donc je voulais juste le mentionner pour clarifier. Bon, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait creuser. Moi, ça me passionne. Mais j'ai envie de prendre juste quelques minutes quand même pour parler aussi un petit peu vous deux, ce que vous utilisez vous en tant que société sur les outils no-code, un peu plus que comment vous les outils no-code vous aident un peu à faire vos produits et vos opérations, etc.
Ouais, alors nous, on a l'équipe dev fait uniquement du dev sur le produit et tout le reste, toutes les autres opérations sont faites en no-code. Donc, par exemple, notre site, on est sur, j'ai mangé le nom juste maintenant, pas sur Wix, on est sur Webflow, pardon, on est sur Webflow. Toutes nos intégrations avec HubSpot, qui est notre CRM, sont faites via Zapier ou Integromat. Et donc, du coup, en fait, même notre système d'emailing, etc., c'est soit du Lemlist ou la grosse machine liée avec du Zapier et Integromat, liée à notre CRM HubSpot. Et donc, effectivement, toutes nos opérations, on essaie de les automatiser avec généralement du Zapier ou Integromat. Donc, on est des gros utilisateurs de Zapier et Integromat.
Ok. Juste par curiosité, est-ce que tu arrives à définir un peu quand est-ce que vous utilisez Zapier plutôt qu'Integromat et vice-versa?
Alors, en fait, on utilise Integromat. Pour mettre à jour des fichiers Excel. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là. Et alors que du Zapier, c'est surtout pour des intégrations qui sont bien connues entre deux outils classiques type HubSpot et un système par exemple d'emailing. Donc ça c'est plus ce genre de choses qu'on va mettre en place. Et Integromat, c'est vraiment quand on a des choses plus custom spécifiques qu'on va utiliser.
Ok. Non, je te pose la question parce que c'est intéressant. Tu vois, on a beaucoup de discussions par rapport à ça dans la communauté No Code. Integromat, j'ai l'impression, commence un peu à avoir la faveur des makers, etc. Parce que c'est beaucoup plus puissant dans une certaine mesure. Alors que moi, je reste persuadé quand même que Zapier est un outil incroyable parce qu'il est très simple d'accès. Alors, il est certes plus cher aussi à cette notion. On vient toujours aussi un peu aux questions financières. Mais donc, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir vous. Parce que nous aussi, on utilise les deux. Globalement, on utilise plus Zapier. Mais ouais, dès que j'ai l'occasion, je demande un peu voir ce qui se dessine un peu comme d'usage différent entre les deux, quoi.
Et après, effectivement, on n'a pas testé N8N. Je pense que c'est quelque chose qu'on va ouais. peut-être tester, où ça peut résoudre en étant open source certaines problématiques, plus du côté effectivement financier, si on scale. Donc ça va être aussi peut-être quelque chose qu'on va tester. Je ne sais pas si tu as des expériences aussi. J'ai vu que tu avais fait un podcast dessus, une vidéo, je pense que...
Ouais, on n'a pas encore beaucoup de recul. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins d'intégration native dans N8N que dans Integromat, qui est lui-même beaucoup moins que dans Zapier, quoi. Donc, comme tu disais, dans votre usage de Zapier, globalement, dans Zapier, tu trouves quasiment tous les outils que tu utilises, quoi. Enfin, je veux dire, globalement, à moins d'utiliser vraiment des trucs exotiques, tout est intégré dans Zapier, donc c'est hyper pratique. Donc, c'est ça quand même, et ça, N8N n'a pas. Par contre, N8N a cet avantage d'être open source et a aussi d'autres fonctionnalités dans une approche un peu plus low-code. Et c'est là où, tu vois, ça va être intéressant, puisque vous, a priori, c'est quand même pas les développeurs qui vont travailler sur ces sujets-là. Et c'est normal, il faut qu'ils se concentrent sur le produit. Donc, tu vois, c'est là où je ne sais pas à quel point N8N va être pourrait remplacer. Mais je serais curieux d'avoir, tu vois, si vous enquêtez un petit peu sur le sujet, justement, d'avoir votre retour là-dessus. Parce que je pense qu'il y a quand même nécessité d'un peu de technique, tu vois. Et surtout, si tu veux héberger ta propre instance, bon, là, tu es quand même obligé d'avoir quelqu'un de tech qui le fait. Alors, peut-être qu'il peut juste faire le setup et puis après, c'est bon, quoi. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est un outil qui est encore un peu limité, n'empêche. Même si je le trouve prometteur et que si tout va bien, là, à Berlin, j'aurai l'occasion de rencontrer un des cofondateurs. Donc, voilà, je ne vais pas dire du mal, du mal d'eux, mais je pense que c'est un projet qui est encore un peu jeune, quoi. Et qui a une approche aussi, mais c'est ça que j'aimerais bien leur demander. Peut-être plus orienté développeur ou en tout cas gens un peu plus techniques, quoi.
Complètement.
Mais on verra. Mais en tout cas, si, n'hésite pas à partager sur le Slack un petit peu vos expérimentations par rapport à ça, parce que ça permet aussi de documenter un peu ces choses-là. Écoute, merci pour tout ça. Je regarde un petit peu mes questions, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a bien creusé. J'espère que voilà, ça aura intéressé les gens, parce que moi, ce que je serais curieux un petit peu de voir, et ça sera peut-être après ma dernière question, mais c'est que tu... Moi, j'aimerais bien, en tout cas, que moi, et puis peut-être on refera un épisode, je sais pas, dans un an, quelque chose comme ça, c'est de voir ce que vos clients ont construit avec ça. Parce que cette idée de faire des produits à base d'API, enfin, ou tu vois, en tout cas, ça dépend par quel bout on le prend, mais bon, en tout cas, tu as cette monétisation, etc., je trouve ça vraiment très intéressant, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est réservé vraiment à des grosses boîtes, etc., enfin... Et là, j'ai l'impression que vous allez donner ça plus accessible. Et donc, des gens qui sont un petit peu créatifs pourraient proposer des choses très intéressantes. Donc, je pense que c'est toujours pareil, tu vois, quand tu es éditeur d'une solution, t'as envie de voir comment tu vas être surpris par tes utilisateurs, quoi. Tu vois, d'ailleurs, c'est une question que je pose souvent. Je pense que là, c'est peut-être encore un peu tôt pour te la poser. Mais en tout cas, j'aimerais bien que tu nous partages si des utilisateurs vous surprennent et font un usage, tu vois, que vous n'aviez pas du tout prévu, quoi.
Oui, on est super impatients, effectivement, d'avoir... ces retours-là, c'est vrai qu'on vient juste d'ouvrir Blubber. Jusqu'à présent, c'était sur des cas d'usage bien, bien travaillés avec des entreprises avec qui on est partenaire, effectivement, plus des scale-up. Et là, étant donné qu'on ouvre un peu plus Blubber, effectivement, on s'attend à des cas d'usage. Ça permet, on est libre de tout faire, en fait, avec Blubber.
Absolument.
Ouais. Par exemple, une entreprise qui commence à implémenter un peu plus à scale, qui partagent des informations sur les hôtels et qui collectent plein d'informations sur des systèmes de réservation d'hôtels et qui repartagent ces informations-là aux hôtels pour leur donner un meilleur scoring sur ce qu'ils font et vendent ces informations-là. Et vendent ces informations-là avec un système de souscription. Et, et c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça, on n'aurait jamais pensé de pouvoir le faire.
Mmh.
Et ça, ça nous paraît valide dans n'importe quel secteur. Dès qu'il y a l'information, qu'elle est bien packagée pour un use case spécifique, on pense que ça intéresse forcément une partie tierce qui sera prête à l'utiliser et l'acheter.
Ouais, carrément. Et tout ça de manière informatisée, donc en passant par des API, quoi. Et pas juste à acheter des reporting PDF et des trucs comme ça qui sont traités, quoi. Et alors, dernière question, juste, est-ce que toi, tu aurais une idée, par exemple, d'un produit que tu ferais un peu sous cette forme-là? Si tu avais le temps, j'imagine que tu n'as pas de side project en dehors de Blubber, mais...
Ce que je vois beaucoup, c'est que une idée que j'aimerais bien faire avec Blubber, c'est par exemple des informations sur l'immobilier.
Ouais.
En fait, il y a plein d'informations où c'est uniquement disponible sur les sites internet. Maintenant, on a le prix des biens en France qui est rendu publiquement disponible. Et je pense qu'il y a plein d'idées de produits qu'on peut mettre en place pour facilement utiliser ces informations en ayant des cas d'usage très précis. Et ça, c'est complètement quelque chose que je me verrais utiliser avec Blobber si je pouvais me garder un peu plus de temps.
Ah, ça, c'est intéressant parce que ça montre bien un des usages, c'est-à-dire que tu vois un peu en cascade dans ce truc d'API, tu vois, c'est-à-dire que l'État met à disposition des données à travers des API. Il y a quelqu'un d'ailleurs sur le Slack de NoCode France qui travaille chez API.gouv, là, enfin, donc qui a déjà partagé un petit peu de choses comme ça. J'invite vraiment les gens à aller voir. Et donc, en fait, tu peux, si tu as la capacité technique d'une manière ou d'une autre de récupérer ces données, les travailler et les redonner sous la forme d'une API, quelqu'un, ça a de la valeur, quoi. Et là, alors, je sais pas si on est service, données, ça, justement, on s'en fout à la limite. Mais tu vois, ce truc d'algorithmique, ou je sais pas comment on appelle ça, tu vois, cette valeur que tu vas créer à partir de données qui sont publiques, elle peut elle-même avoir de la valeur. Donc, ouais, c'est bon. Je pense que j'espère qu'avec tous ces exemples, on aura un petit peu illustré justement vraiment ces choses-là, parce que je trouve que en mettant en avant vraiment l'intérêt de ce que vous proposez, ça met aussi un petit peu en contexte qu'est-ce qu'on peut faire de ces API finalement. Une fois qu'on a compris ce que c'était, qu'est-ce qu'on en fait. Ça, c'est aussi l'autre level où les gens comprennent pas forcément, quoi. C'est un peu un des enjeux, et je pense que bon, j'espère en tout cas. On verra ce que les gens en diront sur le Slack. On verra peut-être que suite à cet épisode, y a des gens dont qui seront un peu créatifs, qui vont imaginer des choses. Ça serait très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Bon, on va pas faire toute la liste de tous les outils no-code qui peuvent exposer des API, mais tu vois, on parlait d'Integromat. Avec Integromat, tu peux faire des webhooks, mais tu peux faire des webhooks, enfin, t'as pas de contrôle sur tout ce qu'on disait, encore une fois, la sécurisation, et ben franchement, ça serait carrément possible de faire des webhooks Integromat qui seraient monétisés à travers Blobber, par exemple.
Complètement.
Et ça, à mon avis, ça pourrait être carrément cool, parce que là, ce que tu peux faire avec Integromat est quasiment infini, quoi, enfin, je veux dire. Donc, voilà. Je cherche, parce que forcément, dans ce qu'on a évoqué, c'est quand même surtout beaucoup des API qui vont être développés par des développeurs, mais... Moi, j'aimerais bien en voir aussi un peu des no-codeurs, je pense, pourraient s'emparer de ça, quoi.
Complètement. Après, effectivement, dès qu'il y a une API, elle est facilement partageable avec une customisation des accès et monétisable, de facto, dès que c'est une API REST. Donc, dès qu'une API REST, on peut l'utiliser ensuite sur Blobber.
Ah, bah, écoute, ça, c'est un bon mot pour que les gens gardent ça en tête. Écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre, et puis Blobber un peu, sur où est-ce que vous êtes à toi joignable éventuellement, et puis sur les réseaux, tout ça, enfin.
On est principalement sur LinkedIn. C'est la meilleure façon de suivre les actualités de Blobber. On publie assez fréquemment. On a un blog pour les bonnes pratiques aussi, plutôt business ou sécurité sur les API. On publie régulièrement des articles. Directement sur LinkedIn, toute l'équipe, on est tous sur LinkedIn. Et sinon, sur notre site www.blobber.io.
Ok, super. Bah, écoute, je mettrai tout ça dans les notes. Merci beaucoup. T'es sur le Slack hein, aussi, il me semble.
Je suis sur le Slack, mon code.
Donc voilà, éventuellement, on pourra continuer aussi la discussion là-bas. Et écoute, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Alors, tiens-nous au courant de tout ça.
Ça marche, Alexis. Merci beaucoup. Salut.
Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude et que ça vous a donné envie de vous intéresser encore plus aux API. N'hésitez pas à regarder dans les notes qui vont avec l'épisode, j'ai mis des ressources qu'on partage régulièrement sur ce sujet, certaines choses aussi qu'on a évoquées dans l'épisode avec Alexandre. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas à aller tester Blobber. Vraiment, c'est gratuit, ça n'engage à rien, et ça vous aidera un petit peu à comprendre mieux le sujet, je pense. Et voilà, moi je serais très curieux si vous jamais vous faites des choses avec Blobber, vraiment que vous nous le disiez. Voilà, je pense que c'est un petit peu technique, c'est pas forcément la notion de produit que l'on a tous en tête. Mais néanmoins, comme vous l'avez compris, moi je pense que un petit peu le futur aussi peut se trouver ici. Donc vraiment, si vous faites des choses avec, tenez-moi au courant. Bon, tenez évidemment Alexandre au courant aussi, je pense que ça l'intéressera. Venez discuter de tout ça avec nous sur le Slack de NoCode France, channel podcast contournement, ou alors même peut-être si vous êtes vraiment intéressé, on pourra créer un channel Blobber. Et si vous voulez vous former plus à la question des API, à ce stade, dans nos formations, pas une formation encore qui soit vraiment dédiée à ça. Par contre, dans notre formation Zapier, niveau intermédiaire, niveau initié, on a passé pas mal de temps là-dessus, parce qu'avec Zapier, il est possible de travailler avec des API. faire des choses assez simples, mais exposer des API, se connecter à des API, toutes ces choses-là. Et donc, on a pris le temps aussi de vraiment bien expliquer le concept, et puis il y a des exercices. Donc voilà, donc à ce stade, dans notre catalogue, c'est ce qu'il y a de vraiment de plus intéressant. Et puis, on l'a en tête depuis un moment, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, donc il y aura une formation, j'espère, d'ici la fin de l'année 2021, vraiment dédiée à ce sujet. On avait fait les prémices un petit peu de ça, c'est un article que vous trouverez dans les notes de l'émission, qui est un petit peu comment le no-code peut vous aider à utiliser les API, à comprendre tout ça, et puis on va faire quelque chose de détaillé, comme on sait le faire pour les débutants, parce qu'on croit vraiment qu'il y a un enjeu à comprendre ce sujet qui est un gros buzzword, évidemment, un peu utilisé à tort et à travers, mais qui néanmoins est très important puisque c'est un des fondements du web, comme j'aime le répéter, et qu'il faut peut-être que j'arrête de le répéter, sinon on va me prendre pour un fou des API, mais c'est un petit peu le cas. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, je pense. En fait, l'été, je vais pas réussir à tenir ce que j'avais prévu, à savoir de sortir un épisode chaque semaine cet été, de garder le rythme, parce que j'ai pas assez bien planifié tout ça. Mais il y aura quelques épisodes de temps en temps. Voilà. Donc, ce sera un petit peu la surprise. Il y a au moins deux épisodes qui sont prévus, qui vont être très intéressants. Et puis, par contre, à la rentrée, de toute façon, on partira à fond, on reprendra le rythme. Et puis, tôt ou tard, dans l'été, il y a aussi le podcast en anglais qui sortira. Mais ça, je vous en reparlerai très bientôt. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte perso sur Twitter. Ça sera annoncé là. Et puis, on retweetera évidemment avec le compte de contournement. Et puis, sur le Slack. Bref, je vous laisse là. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Jusqu'au prochain épisode.